France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Nancy Tyson in the house.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre les États-Unis et l'Iran ce soir.
You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do.
Voilà, vous savez pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le faire, je vais peut-être pas le faire. Vous avez reconnu évidemment Donald Trump. Bonsoir Sylvain Sipel.
Bonsoir.
Vous écrivez pour Le 1 notamment. Vous écrivez aussi dans L'Orient 21, donc la version normande hein, de Donald Trump. Peut-être banque oui, peut-être banque non. On attend toujours de savoir s'il va embrayer et prêter main forte à Israël dans sa guerre contre l'Iran. Le premier constat, Sylvain Sipel, c'est que Trump n'a pas été en mesure de stopper la main d'Israël. De toute façon, il n'est pas plus en mesure probablement de faire cesser les bombardements aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que c'est Israël de toute façon qui a la main? Ou pas?
On est tout à fait d'accord. Israël, la main, c'est un... On assiste à un changement quand même de grande envergure. Mm-hmm. Ça a commencé avec, avec Biden. Hein.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Biden a plusieurs reprises...
Il a eu un mal fou à lui tordre le bras. Ouais.
Ben, c'est pas qu'il a eu un mal fou, c'est qu'il n'est pas parvenu à le faire. Mm-hmm. Et donc, là, et Trump, c'est un matamore, il fait croire, mais si on regarde pas seulement à Gaza, Trump, le nombre des échecs sur le plan international de Trump, je ne vois pas trop quel succès il a eu depuis qu'il est arrivé. Et maintenant, il est dans une position où vraiment, c'est Netanyahou qui dicte la marche. Alors, moi, j'ai une thèse sur qu'est-ce qui explique ce changement, mais en tout cas, pour répondre à votre question, c'est effectivement Israël qui dicte la norme.
Est-ce que ça veut dire quand même que les États-Unis étaient préparés à cette éventualité? C'est-à-dire qu'ils savaient de toute façon que c'était compliqué désormais de tordre le bras de Netanyahou, donc ils savaient que de toute façon, c'était possible et même imminent qu'Israël frappe?
C'est très difficile à savoir, d'abord parce qu'il y a des divisions, des divergences à l'intérieur même de l'administration américaine. Donc, de qui parle-t-on? De Trump, qui change d'avis tous les deux jours. Mmh. Et dans l'administration, il y a des gens qui ne pensent pas du tout pareil. Mmh. Donc c'est assez difficile de répondre clairement à votre question.
Est-ce que vous pensez, vous, cependant, que justement, si Israël a frappé à ce moment-là, c'est parce que les États-Unis, peut-être, allaient arriver à un accord avec l'Iran, ce qui mettait un peu par terre leur perspective? Donc est-ce que le timing est lié quand même aux discussions américaines ou pas?
Je dirais oui ou non. Oui, parce que... Je dirais non, d'abord, parce que, depuis le début, Netanyahou ne cache pas son ambition. Netanyahou dit depuis le début, nous n'accepterons pas un accord avec l'Iran. En tout cas, pas un accord similaire à celui qui avait été fait à l'époque d'Obama. Et donc il n'a pas vraiment caché. Il a révélé d'ailleurs, après cette attaque récente, qu'il voulait la faire en mai. Il a dit que pour toutes sortes de raisons, elles n'ont pas eu lieu, il n'a pas explicité. Mais il ne cachait pas sa volonté de le faire. En même temps, oui... Parce que on pouvait quand même s'interroger sur non pas la volonté, mais la capacité de Trump d'imposer sa volonté à lui. Il y a eu quand même dans l'histoire des relations israélo-américaines, il y a eu des moments de très grande tension.
Alors,
depuis 60 ans.
Alors, c'est vrai, ça a été
Et ça n'a pas lieu.
Ces dernières années, avec Obama, c'était très très haut. Sur une échelle de 1 à 10, on était un peu à 8.
Oui, mais
avec
Obama
Biden,
a été le premier qui n'a pas réussi à tordre le bras.
Avec Biden, effectivement, pas bien non plus. Il y a eu cette période où Trump va faire sa tournée dans le Golfe. Il ne passe pas par Israël, alors que n'importe qui précédemment serait probablement passé par Israël à ce moment-là. Mais le sentiment du deal qu'on avait, deal très cynique d'ailleurs, c'était de dire, on vous laisse faire ce que vous voulez avec les Palestiniens, c'est pour ça qu'on en est là à Gaza, mais sur la région, allez-y mollo. Et on a l'impression que cette espèce de deal qui n'était pas écrit, en fait, c'est aussi là-dessus que Netanyahou s'est assis.
Oui, c'est ce que j'ai lu. Mais je pense que il y a un élément essentiel d'explication. C'est comment fonctionne Trump. Trump pense à l'argent, d'abord à l'argent, et en toutes circonstances à l'argent, vraiment. C'est-à-dire que il est le deal maker, et il est l'entremetteur, il est celui qui arrive. Bon, on va vider Gaza de sa population, peu importe que ce soit un crime contre l'humanité, c'est pas ça le problème. On va vider Gaza de la population et on va faire une Riviera merveilleuse. Bon. Alors, il a son plan avec l'Arabie Saoudite, un plan merveilleux. Mais le problème du plan, c'est qu'il se... Évidemment, Netanyahou est très favorable à ce plan, un plan qui...
Mais le plan ne passait que par un apaisement avec l'Iran. Il ne passait que par un accord avec l'Iran, ce
mais
plan.
Mais ça passait avec deux choses. Un accord, quel qu'il soit, sur un État palestinien, et un accord avec l'Iran. Ce sont les deux choses qui, pour Netanyahou, sont impossibles. De ce point de vue-là, que à la fois les Saoudiens aient pu penser que un jour peut-être et que Trump se soit, si quelqu'un veut imposer à Israël cette solution-là, il gardera du pouvoir, mais il lui faudra vivre avec un État palestinien. Eh bien, ce n'est pas, à mon sens, il faut comprendre comment Netanyahou fonctionne. La seule chose qui pouvait modifier le comportement de Netanyahou, c'était de cesser de lui fournir des armes. Ni Biden, ni Trump ne l'ont fait. La question, il faut se poser pourquoi ils ne le font pas.
Et la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir jusqu'à quel point, effectivement,
absolument,
parce qu'on sait là, effectivement, quelles sortes de bombes sont susceptibles d'aller profondément. Ce qui tourne dans la tête de Trump, j'imagine, au moment où on se parle, c'est la balance qu'il soupèse. Et qu'est-ce que je risque ou qu'est-ce que je gagne? Parce que vous le disiez, il n'aime que l'argent, mais il aime surtout gagner. Donc, il aime aussi gagner. Donc, si à un moment, il se rend compte que cette guerre est gagnée, il voudra aussi...
C'est quoi, gagner la guerre?
Alors, c'est une bonne question. C'est aussi ce que j'allais vous demander. Donc, gagner en fonction de quoi? Et surtout, est-ce que c'est ça qu'il est en train de peser? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds, en fait?
Ben, quelqu'un s'est posé la même question. Il s'appelait George Bush, il y a un peu plus de 20 ans. On a vu comment ça s'est passé en Irak. Ça dépend de... Quelle est l'ambition? Je ne crois pas que la possibilité existe pour Netanyahou de faire à l'Iran un pays immense, avec bientôt 90 millions d'habitants, ce qu'il a fait à Gaza. Ça semble tout à fait improbable, en tout cas impensé. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que Trump veuille aller au sol, comme on dit. C'est-à-dire bombarder, oui. Mais envoyer les troupes américaines. Envoyer les troupes américaines, il y a quand même, il n'y a pas que les nationalistes protectionnistes américains qui disent ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il y a aussi même des gens très proches de lui, même des néoconservateurs qui disent il ne faut pas aller au sol. Il ne faut pas envoyer la troupe. On a vu ce qui s'est passé. On pensait qu'on allait être accueillis en libérateurs. Et on a vu ce qui
ne sera pas le cas en Iran. On est d'accord.
Et en Iran, il faut bien comprendre, l'Iran est un pays où le nationalisme est très important. Je pense qu'il y a une forte proportion de gens qui détestent les mollahs, mais contrairement à ce qu'on raconte, pas tout le monde. Dans les milieux... Les milieux anti-mollahs, ce sont les milieux urbains.
Et il y a aussi une société civile,
en
Iran, qui est extrêmement vive, et on l'a
et
vu
qui
ces
est
derniers
vive
temps.
Et qui n'acceptera jamais un nouveau régime qui est imposé sous l'égide des Américains et des Israéliens. C'est un leurre total.
Du coup, je reviens à ma question sur ce que Trump est en train de peser. Est-ce que ce qu'il pèse, à votre avis, c'est le devenir de ses propres deals dans la région, au fond? Ou est-ce que ce qu'il pèse, c'est ce qui se passe à l'intérieur? Vous l'avez dit, on se retrouve dans une division qui ressemble un peu, effectivement, à celle qu'il y a eu un moment entre les Faucons et les autres. C'est un peu différent aujourd'hui.
Oui, c'est un peu différent.
Les magas, si on peut dire, qui sont derrière Bannon d'un côté, les autres de l'autre. Mais de l'autre, il y a les évangélistes, qui pèse quand même extrêmement lourd dans la balance de Trump. Donc, est-ce qu'il pèse le Moyen-Orient ou l'intérieur en ce moment, à votre avis, ce président?
Je vous remercie de votre question.
Je vous en prie.
Si j'étais lui, je serais obligé de penser aux deux. C'est indissociable. C'est absolument indissociable. C'est-à-dire que, je crois que c'était dans le Washington Post, quelqu'un a écrit, si Trump suit Netanyahou, et veut effectivement faire ce qu'on appelle un regime change, ça échouera de la même façon que ça a échoué en Libye, en Irak et partout ailleurs, et il ne veut pas le faire. Mais s'il n'a pas la capacité de résister à Netanyahou, il peut y être entraîné. Je ne sais pas comment. Moi, je ne suis pas dans la tête de Trump.
Est-ce que vous avez l'impression que ça...
Mais je pense, pour finir mon point, que... Ce qui lui importe plus, c'est ce qui se passera aux États-Unis. Mmh. Et l'image qu'il va garder aux États-Unis que l'international. Si je comprends bien, si j'ai bien tout lu le Trump, hein, comme disait Coluche.
Mmh, mmh. Vous avez raison, par ailleurs, l'extérieur, et même quand ce sont des campagnes de ce genre-là, n'influe pas cependant forcément sur une élection. Je me demandais jusqu'à quel point, quand même, là, on en est au stade où ça risque d'éclipser le reste de sa présidence, quelle que soit la décision qui est la sienne.
Totalement. Totalement. Le risque qu'il est en train de courir, c'est que l'affaire iranienne soit un poids dont il ne puisse plus se dépêtrer jusqu'à la prochaine élection. Et peut-être même jusqu'au midterm qui attendent dans 2 ans.
Donc,
moins de 2 ans.
Lorsqu'il dit que l'Iran est entré en contact avec lui pour négocier, c'est ce que dit Donald Trump, il l'a dit il y a quelques heures, quelques minutes de ça, on a bien compris en vous écoutant qu'il y ait négociation ou pas. De toute façon, on ne tord pas la main de Netanyahou à ce stade-là.
Et on ne tordra pas la main de Khamenei. Non, si on croit aujourd'hui que c'est parce qu'on a bombardé l'Iran que Khamenei va capituler, tout ça c'est effroyablement erroné. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas. Il y a une chose qui peut convaincre Netanyahou, qu'il y a une volonté américaine de négocier. C'est que si les Américains arrêtent de fournir des bombes à Israël. S'ils ne le font pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, il n'y aura pas de négociation sérieuse.
Moi, en lisant ce papier qui nous dit qu'effectivement l'Iran est entré en contact avec les États-Unis, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que c'est vrai même, en fait, de ce qu'on voit là, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vraiment ça a un sens de se dire que les Iraniens sont rentrés en contact avec les États-Unis? Quand on voit la position de Khamenei, de toute façon, il est même permis d'en douter.
Je ne suis pas un spécialiste de l'Iran. En revanche, j'en connais quelques-uns, et eux pensent qu'en toutes circonstances, s'il y a une possibilité de discussion avec les Américains, les Iraniens resteront dans la discussion, et cherchent, et même tenteront de la préserver. Il y a des choses qu'ils ne feront pas. Il y a ce qui peut leur donner confiance, c'est ce que je disais. Si Trump parvient à faire cesser immédiatement ce qui se passe à Gaza, et le seul moyen, c'est d'arrêter de livrer les bombes. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Et de laisser passer la nourriture, je veux dire. Donc, si ça se fait, si évidemment les bombardements de l'Iran cessent, à ce moment-là, on pourra voir s'il y a une place pour la négociation et pour la diplomatie. Mais tant que ça n'a pas lieu, je ne vois pas comment... Ils peuvent bombarder et bombarder.
Cette discussion, elle se poursuit aujourd'hui dans le 18-20, dans le téléphone sonne tout à l'heure à partir de 19h20 avec vos questions. Allez-y, vous pouvez y aller, il y a vraiment de quoi faire. Sylvain Sipel, vous écrivez notamment pour Lorient 21. Je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe à Rio, ça n'a rien à voir. Figurez-vous qu'il y a des crocodiles partout et que c'est épouvantable. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Christelle Rebière sous les radars.
Le milliardaire Jeff Bezos va se marier à Venise dans quelques jours. Les Vénitiens ne se gondolent pas.
Ah, le monde à 18h50 et Frédéric Saïd. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne. Israël fait le sale boulot pour nous. Comment comprendre cette déclaration du chancelier allemand?
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Salut Corinne.
Bonjour. À l'état du monde vous déprime, eh bien louez un ami. Mode d'emploi à suivre avec le film Peacock.
Allez, à tout de suite les amis. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la playlist de France Inter comme chaque soir avec un de ses habitués. Early James, Go Down Swinging. À tout de suite.
Playing duck, duck, goose inside a chicken coop. My the fox and my phone. Am I the verb? Am I the noun? Did I fall in love? Someone who'd kill to make a living. Well, I'll never die the hero. So let me go down swinging. Mm-hmm.
Attention en traversant la rue et en passant par le reportage d'Un jour dans le monde ce soir, parce que ce que vous entendez là, c'est un caïman qui avance tranquillement dans une favela de Rio de Janeiro. Il a pris ses aises, apparemment, et ça n'est pas un cas isolé. Au coin de la rue, dans la cour d'une maison, ou même sur la plage, les apparitions de caïmans sont de plus en plus fréquentes dans la ville, c'est quand même un souci. Et pourquoi donc? Eh bien parce que la croissance immobilière grignote leur territoire, et le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui raconte.
Ricardo Freitas imite le bruit de l'animal pour attirer sa curiosité. Ça fait 25 ans qu'il étudie les caïmans de Rio, tout spécialement ceux du quartier de Jacarepaguá, qui en langue autochtone veut dire la vallée des caïmans. Depuis l'embarcation précaire sur laquelle il se dresse, flottant au-dessus d'une eau fétide, il tente de capturer un spécimen d'un peu moins de 2 mètres. Ça y est, il l'a attrapé. Il faut maintenant le marquer, vérifier le poids, la taille. Avec l'Institut Jacaré, Ricardo recense ces animaux et s'inquiète de les voir s'aventurer au milieu de la ville.
On néglige le principal prédateur de Rio, survivant d'une zone complètement dévastée par un développement urbain chaotique.
Cette région, autrefois préservée, est devenue l'Eldorado du secteur immobilier. Les constructions gagnent du terrain sur les lagunes et y déversent trop souvent leurs égouts. Ces étendues d'eau, toujours plus réduites, plus polluées et moins profondes, se réchauffent. Une catastrophe pour les reptiles.
Les caïmans font leur nid et la température détermine le sexe. Si elle augmente, la distribution naturelle entre mâles et femelles est perturbée. Aujourd'hui, nous avons ici 85% de mâles.
Du coup, même si on compte aujourd'hui près de 6000 individus à Jacarepaguá, ils pourraient à moyen terme disparaître. Et puis, trop nombreux, les mâles se bagarrent et se tuent.
Ce n'est pas qu'il n'y a plus de caïmans, c'est juste qu'ils sont concentrés dans une zone toujours plus restreinte. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace pour se reproduire, s'alimenter, il y a trop de collègues. Du coup, ce n'est pas qu'ils s'aventurent en territoire urbain pour chasser, c'est juste une recherche désespérée pour trouver un meilleur endroit pour vivre.
Durant leur quête, il peut leur arriver des malheurs. Les plus chanceux se font recueillir dans la clinique du vétérinaire Jefferson Pires au sein de l'université Cras Unesa.
On en voit souvent qui arrivent le ventre complètement rempli de plastique. Mais ce qui est le plus courant, c'est d'en recevoir qui se sont fait écraser par une voiture.
Jefferson en soigne une trentaine par an. Certains se perdent et atterrissent dans la mer après de fortes pluies. Ils ne peuvent y survivre que 72 heures. D'autres se font attaquer par la population.
J'ai déjà reçu des animaux qui ont été attaqués à coups de bouteilles, de bâtons. Les personnes en ont très peur, peut-être à cause de l'image créée dans divers médias, de vieilles histoires qui en font un animal agressif et dangereux. Mais l'espèce locale de caïman est au contraire très tranquille.
Au pire, ils peuvent manger un chat ou un chien, mais ils ne s'attaquent pas aux humains. Les plus gros peuvent pourtant dépasser les 3 mètres. Chico, l'un des derniers habitants d'une communauté de pêcheurs qui résiste sur la lagune, déplore une situation qui empire.
Même si parfois ils nous déchirent nos filets, il faut être conscient qu'on est sur son territoire et qu'il est très important pour l'équilibre de la lagune. Mais il y a beaucoup de chasseurs. Rien que la semaine dernière, on a encore trouvé un caïman tué par balle. Ils le chassent pour manger et revendre sa viande. Ces pauvres bêtes souffrent de la pollution comme de la violence des hommes.
Pêcheurs comme scientifiques sont bien seuls à s'inquiéter du sort de ces reptiles. Bientôt, l'histoire de la vallée des caïmans pourrait se poursuivre sans eux.
Jean-Mathieu Albertini pour le reportage. Merci beaucoup et à très vite. L'actualité internationale passée sous les radars. C'est Christelle Robière. Et c'est d'abord au Cambodge que nous sommes, Christelle, qui se mobilise contre son voisin, la Thaïlande.
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Phnom Penh en soutien au gouvernement. Une fois de plus, c'est la question de la frontière entre les deux pays, longue de 800 km, qui crée des tensions. Le 28 mai dernier, un soldat cambodgien est mort lors d'un échange de tirs avec l'armée thaïlandaise dans une zone qu'ils se disputent. Ils s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités. Les manifestants en rouge et bleu, les couleurs du drapeau cambodgien, ont marché symboliquement vers le monument de l'indépendance. Première grande manifestation dans la capitale alors que la tension monte. La Thaïlande a renforcé les contrôles aux frontières, affectant de nombreux travailleurs frontaliers. En représailles, le Cambodge a suspendu l'importation de fruits et légumes de son voisin. Phnom Penh boycotte aussi les séries et films thaïlandais et a cessé d'acheter de la bande passante à la Thaïlande. Plus sérieusement, le Cambodge a aussi saisi la Cour internationale de justice sur les 4 zones que les deux pays se disputent. Le tribunal des Nations Unies a déjà donné raison par 2 fois dans le passé au Cambodge. Un volcan
qui crache des cendres jusqu'à 11 000 mètres. Bienvenue en Indonésie.
Oui, ça impressionne ce monsieur qu'on vient d'entendre. Plus précisément sur l'île touristique de Flores, à l'est du pays. Le volcan a 2 sommets. Levotobi Laki-Laki est en éruption depuis hier. Le niveau d'alerte a été relevé au maximum. Toute activité est suspendue dans un rayon de 7 km autour du cratère et ça perturbe fortement le trafic aérien à quelques centaines de kilomètres à l'est, à Bali. 32 vols intérieurs et internationaux ont été annulé, mais l'aéroport n'est pas fermé. Tout dépend de l'itinéraire des vols et des compagnies aériennes. En novembre, déjà, le même volcan s'était réveillé, faisant 9 morts.
Et nous sommes donc à Venise.
Sa place Saint-Marc, ses gondoles et sa manif. Certains Vénitiens ne veulent pas du mariage le plus people de la planète. Le milliardaire Jeff Bezos, 61 ans, va épouser sa fiancée Lauren Sanchez, 55 ans, dans l'endroit le plus romantique du monde. 6 jours de festivités à partir du 23 juin pour le fondateur d'Amazon et ses centaines d'invités. Mais dès vendredi dernier, des protestataires ont accroché une grande bannière à un clocher avec son nom barré d'une croix rouge. Certains prévoient la semaine prochaine de sauter dans des canaux pour gêner les bateaux taxis qui transporteront les invités du mariage ou encore de bloquer les ruelles étroites de Venise. Ils reprochent au maire au passage de faire de la ville une toile de fond glamour, une simple vitrine. Alors que les Vénitiens sont de moins en moins nombreux parce qu'ils n'arrivent pas à se loger, il ne reste plus que 50 000 habitants. Ils étaient 175 000 en 1950. Alors c'est pas la première fois que Venise est le décor d'un mariage papier glacé. En 2014 déjà, l'acteur Georges Clooney avait choisi d'y épouser l'avocate Amal Aloumoudin, mais c'était cette fois beaucoup plus glamour.
On s'est beaucoup plus gondolé donc à l'époque de Georges Clooney.
Je vous le laisse dire.
Madame, merci beaucoup Christelle. Nous allons au Brésil, nous retournons au Brésil avec Osmo Tantes. Aminia Minina, vous êtes d'un jour dans le monde les amis, ne bougez pas.
Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo
Dantes, Aminia Minina, dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Le Monde à 18h50, c'est Frédéric Seyss.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Frédéric, une question simple, posée simplement plutôt ce soir. Quelle mouche a donc piqué le chancelier allemand Friedrich Merz ?
Israël a le courage de faire le sale boulot pour nous tous. Cette déclaration hier du dirigeant allemand a été reprise dans le monde entier. Stupeur et conjecture, cette phrase choc détonne avec le vocabulaire choisi par les autres capitales européennes. Elles appellent à la désescalade, au retour des négociations, certes en soutenant le droit d'Israël à se défendre. Alors comment expliquer ce coup d'éclat lexical du chancelier conservateur allemand ? Est-ce un lapsus, une maladresse ? Quand on écoute en entier sa déclaration, il est vrai qu'il emprunte cette expression « faire le sale boulot » prononcée dans la question d'une journaliste allemande. Mais il la reprend à son compte et il va même plus loin dans la suite de sa réponse. Je cite le chancelier Merz : respect à l'armée israélienne et aux dirigeants israéliens d'avoir eu ce courage, sinon nous aurions continué à subir pendant des mois le terrorisme du régime iranien. Fin de citation. Sur le fond, donc, c'est très clair. Le chef du gouvernement allemand soutient un changement de régime par la force en Iran. C'est une position assumée et pas un écart de langage.
Même si Friedrich Merz est coutumier des déclarations à l'emporte-pièce.
C'est vrai, la presse allemande souligne régulièrement son impulsivité. Il y a quelques mois, Merz avait d'ailleurs déclenché une polémique nationale après avoir rompu le cordon sanitaire avec les députés de l'extrême droite allemande. Il se disait prêt à accueillir leur soutien et leur vote sur les questions d'immigration. Il avait dû rétro-pédaler. Cette fois-ci, sa tirade sur Israël qui ferait le sale boulot a également provoqué des dissensions avec les sociaux-démocrates, notamment au sein de la coalition au pouvoir. Plusieurs d'entre eux dénoncent le choix de ces mots jugés inappropriés. Mais en l'occurrence, Friedrich Merz n'a pas reculé, n'a pas corrigé, n'a pas renié sa déclaration parce qu'elle touche quelque chose de plus profond, de plus sensible aussi, le rapport de l'Allemagne avec Israël.
L'Allemagne, l'un des alliés les plus solides d'Israël en Europe.
Oui, pour des raisons historiques évidentes, Berlin se veut aux avant-postes de la solidarité avec les Israéliens. Par exemple, l'Allemagne fait partie des pays les plus opposés à la suspension de l'accord entre Israël et l'Union européenne. Autre exemple de ce lien, avant le début de l'attaque israélienne contre l'Iran, le chancelier allemand a été prévenu en personne par Benjamin Netanyahou. À ce qu'on le sache, c'est d'ailleurs le seul dirigeant dans ce cas avec Donald Trump.
Friedrich Merz, Frédéric, tente aussi de se tailler une aura diplomatique, ce que n'avait pas réussi à faire son prédécesseur.
Son prédécesseur, le chancelier Scholz, victime de ses ambiguïtés, de ses hésitations, armer l'Ukraine ou pas, lui fournir des missiles de longue portée ou non, il avait rendu peu audible la voix allemande. Son successeur, Friedrich Merz, veut incarner par contraste le parler dru et cru. La clarté, la pression sont également des outils diplomatiques, revendique l'un de ses porte-paroles. Il faudra au moins ça pour engager le bouleversement des mentalités en Allemagne, où l'armée nationale reste fortement impopulaire, la population largement pacifiste. Le chancelier Merz met sur la table 100 milliards d'euros par an à destination des militaires allemands pour moderniser les troupes, développer les recrutements face à une pénurie de candidatures. Il lui faudra aussi renouer le fil diplomatique avec la France, au moins sur ce dossier de l'Iran, car pendant que Friedrich Merz parle au passé du régime des Mollahs en félicitant l'état-major israélien, Emmanuel Macron, lui, affirme que changer le régime iranien par la force, ce serait, je cite, la plus grande des erreurs.
Frédéric Seyss, merci beaucoup et à demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellicier.
Moteur.
France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Grüß Gott, Matthias von My Companion.
My Companion ist keine gewöhnliche Friend for Hire Agentur.
Si l'état du monde vous déprime, et franchement, il y a de quoi, allez donc voir Peacock. Corinne, c'est ce que vous nous conseillez, satire sociale au cinéma, donc ce mercredi, qui met en scène un personnage pas banal, il s'appelle Mathias, qui sera au choix un fils, un ami, un prof de maths, votre coach en matière de dispute aussi, suffit de louer, de cocher ce qu'on veut et de louer. Idée géniale d'un tout jeune réalisateur autrichien qui s'appelle Bernhard Wenger, il a 33 ans, et vous nous le faites découvrir ce mercredi.
Voilà, la dernière sensation de la nouvelle vague du cinéma autrichien qui va venir vous chatouiller exactement là où ça fait mal, avec un film qui s'adresse en priorité à votre ego. Comment avoir l'air toujours cool en photo sur les réseaux sociaux ? Eh bien tout simplement en louant un ami, Mathias, incarné par le comédien d'À l'Ouest, rien de nouveau, Albrecht Schütz. Bon esprit, bon look, toujours poli, toujours souriant, ultra à l'aise dans les conversations. Vous faites de lui ce que vous voulez, parfait pour briller dans un dîner, impressionner les profs à l'école ou bien jouer les amateurs érudits les soirs de vernissage. Il suffit juste de se rendre sur le site mycompagnon.com. Les clients l'adorent, c'est le mieux noté. Et même s'il est très créatif, eh bien Bernard Wenger, avec lui, n'a rien inventé, puisque l'idée de ce personnage lui est venue d'un voyage au Japon, où depuis 20 ans, les sites de location d'amis font fureur.
Il n'y a vraiment rien que vous ne puissiez pas louer au Japon. Entendre les gens qui travaillent dans ces emplois, comment ils se préparent, comment ils fonctionnent, comment ces agences fonctionnent, quel genre de personnes sont les locataires, quel genre de personnes sont louées, c'était bien sûr inestimable. Il y a tellement de choses que nous ne pouvions pas imaginer. La raison pour laquelle certaines personnes réservent quelqu'un, parfois juste pour ne pas être seul, pour prendre un café ou pour se balader. Je suis allé pour la première fois au Japon à l'été 2018 pour y faire des recherches et j'ai rencontré une personne travaillant dans une agence qui m'a dit qu'à cause de son petit boulot, être quelqu'un d'autre tous les jours, il ne savait plus être lui-même. Et c'est ce que j'ai utilisé pour le personnage principal, Mathias, qui se doit d'être un compagnon parfait, un partenaire, un père, un fils parfait. Le seul problème, c'est qu'en travaillant simplement comme la société veut qu'il soit, il a perdu la capacité d'être lui-même.
Matthias, was ist das? Du bist einfach nicht mehr echt. Ich spüre dich nicht mehr.
Alors, Corinne, on comprend bien que ce genre de boulot peut rendre un poil schizophrène, hein, mais c'est un personnage qui est surtout perpillé à cause des injonctions de la société.
Et de ses besoins toujours plus standardisés, le sujet des sites de location d'amis aurait pu valoir un film à lui seul. Mais parfois, il faut aussi savoir faire confiance à l'époque. Le personnage de Mathias finit par se perdre à force de vouloir cocher toutes les bonnes cases.
These agencies could be beneficial for people.
Ces agences pourraient être bénéfiques pour les personnes très introverties. Pour qu'elles s'améliorent dans leurs interactions sociales. Mais bien sûr, elles ont rapidement été utilisées pour se mettre en avant, cacher des mensonges, manipuler, montrer son pouvoir. Aujourd'hui, tout doit être parfait. Nous n'avons plus le droit d'échouer. Nous devons constamment montrer à quel point les choses sont formidables. Et c'est un gros problème. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce film. L'histoire pourrait être tragique et sombre, mais ma vision du monde n'est pas cynique. Nous vivons une époque très très difficile. Notre monde est en mauvais état, mais je le regarde quand même avec humour. Mon personnage principal est passif et très perdu, et pourtant je l'aime.
Voilà, on rit beaucoup. Oui, non, mais c'est mignon, mais c'est beaucoup d'humour noir. Résultat aussi qui fera penser au cinéma de Yorgos Lanthimos ou de Ruben Östlund. La cruauté en moins. C'est promis, vous allez adorer Mathias et ce premier film de Bernard Wenger, écrit en partie à Cannes dans le cadre du programme d'aide à la création de la Ciné-Fondation et qui donne un rendu très soigné au niveau de l'écriture, du cadre et même des décors.
Et ben voilà, ça s'appelle Peacock, signé donc Bernard Wenger et c'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup. À mercredi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir on se pose un peu sur le chaos du Moyen-Orient dans le téléphone sonne.
Iran, Israël, sixième jour et toutes les questions méritent d'être posées. Marie par mail, les bombardements israéliens sur les sites atomiques iraniens peuvent-ils engendrer une augmentation de la radioactivité? Patrice, l'élimination des dirigeants iraniens ne risque-t-elle pas d'entraîner l'Iran dans un chaos incontrôlable identique à celui qu'on a vu en Irak? J'ai aussi Tristelle. Israël attaque-t-il l'Iran pour faire diversion par rapport à Gaza?
01 45 24 7000 pour discuter avec nous. Et c'est la même question pour vos pouces, le même chemin pour vos pouces par WhatsApp.